Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Les mecs que je veux ken. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième saison de mon podcast, Les mecs que je veux ken. Ah, quelle joie de vous retrouver, je suis trop heureuse d'être de retour. J'espère que vous aussi, vous êtes prêts pour ces nouveaux épisodes. Alors pour les nouveaux arrivants, Les mecs que je veux ken, c'est un podcast humoristique de discussion sur la création, l'écriture, l'amour, le sexe, la passion, où j'invite des hommes que je veux ken, voilà. Et par ken, j'entends posséder, des hommes que j'admire et dont je veux toucher le talent. Des hommes qui m'attirent physiquement, intellectuellement, des hommes avec qui je pourrais me voir en couple, pourquoi pas, des hommes avec qui je voudrais des enfants ou pas. J'avais envie de commencer cette saison 2 avec un homme de théâtre et non pas un humoriste, pour varier les plaisirs et m'habituer peut-être au discours plus doux de ceux qui, moins désespérés, ne discréditent pas tout. Je vous offre donc the one, the only, Alexis Michalik. Voilà. Alexis, c'est l'auteur et metteur en scène d'Edmond, du Porteur d'Histoire, Le Cercle des Illusionnistes, Une Histoire d'Amour, Intramuros, cinq pièces magnifiques qui se rejouent dans les théâtres parisiens actuellement ainsi qu'en tournée. Mais je vous en dis pas plus sur Alexis, je vous laisse découvrir notre échange. Or, avant, je voudrais vraiment vous remercier, voilà, pour vos petits messages sur Apple Podcast et sur Insta. Voilà, et puis surtout aussi, merci beaucoup à ceux d'entre vous qui sont venus voir mon spectacle de stand-up au point virgule, ou à ceux qui s'apprêtent à venir, vous êtes vraiment les bienvenus. Voilà, c'est un spectacle mis en scène par Adrienne Olé, qui est mon amie et ma géniale metteur en scène. C'est tous les mercredis à 19h, 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, dans le 4e arrondissement, métro Saint-Paul, dans le Marais. Voilà, venez, on ira boire des coups après, c'est jusqu'en décembre, mais attendez pas le dernier moment quand même, voilà, et puis n'ayez pas peur, on applique la distanciation sociale avec la demi-jauge, le public est masqué, il y a du gel à disposition, les fauteuils sont désinfectés entre chaque spectacle, je ne postillonne pas sur vous, et puis heureusement, je suis pas malade, voilà, c'est une période pleine de changements, hein, pleine de nouveautés. Et pour cette nouvelle année qu'on commence ensemble, cette nouvelle année scolaire, eh ben, je vous souhaite vraiment plein de douceur, de manger des pommes et du miel et de vous régaler.
Ah, c'est magnifique. C'est toi qui as
trouvé
toute la déco
ou c'est... Ouais, j'ai toujours tout pété. En fait, j'ai racheté, pété, refait.
C'est clair, c'est trop,
trop
beau. Est-ce que je peux prendre un verre d'eau?
Ah oui.
C'est incroyable.
Ouais, c'est cool. Je t'avoue que j'ai mis un an à m'y habituer. Pendant un an, je me levais, je faisais genre...
Waouh,
nous sommes dans l'appartement d'Alexis Michalik, qui est magnifique. On va pas donner l'adresse.
Moi ou l'appartement?
L'appartement. D'accord, et toi? Ah, toi d'abord, puis merci, l'appartement.
Rosa. Merci Rosa. Ouais, il est chouette.
Il est incroyable.
Tout à fait, dans un quartier que j'affectionne tout particulièrement, le 19e.
Voilà. Un quartier populaire, mais en même temps, fait. Maintenant, bobo quand même.
Ouais, là... ça s'est sacrément boboisé, mais c'est vrai que quand je suis arrivé il y a presque 15 ans maintenant, c'était pas pareil. Hein. Mais c'est super, c'est génial. Les quais du canal maintenant, c'est un spot. Depuis le confinement, en plus, c'était le seul endroit où on pouvait courir autour du canal.
C'est clair.
Donc c'est voilà.
C'était sûr pour toi que ce serait le 19e, parce que quand t'as dû acheter, j'imagine que, bon, maintenant, ouais. Étant, je sais pas, l'auteur francophone le plus joué au monde, tu devais avoir le choix, en fait, de là où tu pourrais
oui,
acheter.
Oui, c'est vrai, mais j'ai grandi dans le 18e, donc j'ai des origines populaires, on va dire, et puis j'aime bien les quartiers populaires, plus qu'un truc, j'aime bien le mélange, j'aime bien la mixité, j'aime bien quand c'est... j'aime bien.
Ah, c'est trop beau. Alexis, est-ce que tu es prêt? Je commence chacune de mes discussions avec les invités avec un petit poème que je leur lis.
Je t'écoute.
Ok. Alors. Alexis Michalik. Que dire sur Alexis qui n'a pas déjà été dit? On compte plus les Molières, les distinctions, les casquettes d'Alexis qui met en scène, mais joue aussi, écrit des pièces, mais des romans aussi, et des scénarios, puis il réalise aussi. Bon, Alexis est un génie. Il a révolutionné le théâtre français en rejetant ce qu'il y avait de snob dans le public et de beauf dans le privé pour créer un théâtre du milieu vitésien, quelque part.
Le projet de l'élitisme pour tous, c'est-à-dire le divertissement accessible de grande, grande qualité. Impossible pour le public de sentir con ou de s'ennuyer, tant la mécanique est huilée, articulée, des histoires qui s'imbriquent comme des poupées russes, c'est très jouissif, surprenant, malin, c'est plein d'humour, d'humanité.
Bah c'est pas mal ça.
J'ai pas fini.
Ah ok, c'est même pas fini, vas-y continue alors.
T'aimes déjà bien ça ?
Ouais, c'est pas mal. Beaucoup ouais. de rimes aussi, mais sinon c'était super.
J'ai eu la chance de travailler avec Alexis Michalik, qui m'avait choisi pour jouer Marie-Agnès de La Fallière dans le court-métrage des talents Canadami Pim Poum le petit panda.
Culte.
Ce court-métrage, et c'est pas parce que je joue dedans que je dis ça, mon père le dit aussi, est une merveille. Voilà. Et j'adore ma performance dedans, d'ailleurs. C'est rare de s'aimer à l'écran dans le jeu. J'avais été hyper bien dirigée par toi, Alexis. J'avais adoré ce tournage.
Moi
et
aussi.
Surtout, être dirigée par toi, avec précision et exigence. Et puis en plus, je suis belle à l'image dans ce rôle. Tu m'avais bien filmée.
C'est vrai.
On en vient à la dernière partie de ce poème. Quand Musset demande à quoi rêvent les jeunes filles, la réponse est Alexis Michalik. Voilà, les filles rêvent d'Alexis Michalik, qu'il leur envoie des textos enflammés, qu'il les amène, pourquoi pas, je sais pas, manger des frites un soir au relais de l'entrecôte.
Bien sûr.
Qu'il les embrasse dans la rue, contre des portes inconnues. Et que dans un scénario un peu à la Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, Alexis tombe malade et qu'elle lui apporte de la soupe et lui fasse boire de la soupe à la cuillère au pauvre génie affaibli. Voilà, ça c'est ça.
C'est des rêves extrêmement précis. Hein.
Oui, hein, bah. Mais à quoi rêve Alexis ?
Ah là là, à quoi rêve Alexis ? Bah, il rêve à plein de choses. Hein. Moi, j'ai réalisé pas mal de mes rêves, donc c'est super. Et puis j'essaie de continuer quoi. Est-ce que je rêve à des trucs? Ouais, mais en fait depuis que j'ai réalisé Edmond, il y a un peu un côté bon bah en fait c'est possible en fait.
Ouais.
Donc on peut se permettre de rêver grand et de se dire ben peut-être que ça se fera un jour en étant patient, en travaillant. Donc en tout cas en termes de boulot ça va plutôt bien.
Ouais.
Et puis à part ça on rêve. On rêve que quand les choses vont bien, on rêve que ça continue à aller bien, on rêve que nos proches aillent bien et que voilà, moi je pense que j'aime pas être heureux ou j'aime pas avoir du succès tout seul. J'aime que autour de moi ce soit le cas aussi. J'aime que mes proches, ma famille, les gens, puis même les gens que j'aime pas, hein, que les choses fonctionnent pour eux.
Sérieux ? Même les gens que t'aimes pas, tu veux que ça fonctionne pour eux ?
Bah, je leur souhaite pas de mal, quoi. Mais
ah ouais ?
De toute façon, en général, la vie finit toujours par te foutre des baffes. Quand tu te comportes mal, ça te revient dans la gueule
ouais.
à un moment ou à un autre, quoi.
Ouais.
Alors que, et inversement, la plupart des gens que je connais, qui sont vraiment des crèmes et qui sont vraiment... des amours et qui font beaucoup pour les autres, ça finit aussi par leur revenir d'une manière généreuse.
Et donc t'as mûri parce que nous on se connaît depuis une dizaine d'années.
C'est vrai.
Et donc aujourd'hui, tu m'as l'air très... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le temps de discuter, très apaisé, très zen.
Ouais.
Mais il y a 10 ans, tu avais plus de colère ou de revanche.
Je ne sais pas si j'avais de la colère. Non, j'avais de l'envie. J'avais envie de... Enfin, comme on est tous, quand on est jeune comédien, jeune auteur, jeune metteur en scène, on a envie d'y arriver, en fait. Et on ne sait pas comment faire au début. Et c'est marrant parce que quand on est vraiment, moi j'ai commencé assez jeune, comme toi, hein, genre à 18 ans, j'étais déjà en train d'avoir un agent, de courir les castings, etc. Et il y a un truc où je me dis souvent, j'aimerais bien pouvoir parler à ces jeunes gens et qui se disent comment il faut faire.
Ouais.
Et je sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais moi j'ai eu un truc sur les tournages, par exemple, où je voyais d'autres gens, d'autres jeunes de mon âge. Moi j'étais très scolaire quand même, j'apprenais bien mon texte, j'arrivais à l'heure, j'étais plutôt sympa, enfin j'essayais de parler aux gens, etc. Et je voyais quand même des mecs qui se comportaient un peu comme des gens qui se la pètent, quoi.
Ouais, bah
des
ouais.
petits, des jeunes, souvent c'est les plus jeunes qui se la pètent, je trouve,
ouais, ouais.
parce que ceux qui ont fait 20 ans de carrière, ils savent comment ça marche, quoi.
C'est clair.
Et voilà, et je me disais et j'en parlais un peu, je disais qu'est-ce que tu fais après, ils me disaient oh bah moi j'enchaîne, j'ai un autre tournage et puis j'enchaîne derrière encore, et j'étais là genre
wow.
bah peut-être qu'en fait la solution c'est d'être un connard en fait,
ouais.
parce on peut être tenté de se dire ça, quoi. Alors que pas du tout, alors que quand on fait le bilan, là ça fait 20 ans que je bosse,
ouais.
bah non en fait ceux qui bossent encore c'est pas les connards, ceux qui ouais. bossent encore c'est ceux qui sont
bien.
Sympas et qui travaillent, avec qui on a envie de bosser. Et moi quand j'embauche des acteurs, ben je vais je vais demander autour de moi, alors il est comment ? Et ouais. Si les gens me disent, bah vraiment, il est insupportable, ouais. Je vais éviter de l'embaucher, quoi. Je vais plutôt prendre quelqu'un où on me dit, alors lui, vraiment, j'ai fait 2 spectacles avec lui, c'est ouais. Un amour, et en plus, c'est un super comédien, etc. Bon, bah, allons-y, alors.
Mais comment tu gères ? Enfin, je sais pas, attends, combien t'emploies d'acteurs, là, tes 5
théâtre ?
Ouais, au théâtre.
Une centaine. Ouais, c'est fou, ouais.
C'est un truc de
ouais, c'est fou. J'ai fait le compte parce que je les ai tous tagués dans une publication là il y a pas longtemps et je me suis dit bah ça y est, on a dépassé la centaine là. C'est fou quoi.
T'imagines.
Ouais, c'est incroyable. Hein. Ouais, 100 comédiens. Mais je pense que c'est ce qui me rend le plus fier. Hein. C'est vraiment ouais. Le truc qui me rend le plus fier, c'est d'avoir créé cette espèce d'entreprise.
De donner autant de travail.
Ouais, voilà, cette espèce de famille théâtrale. C'est
et
chouette,
résultat,
quoi.
T'es pas submergé parfois. Moi, ça m'est arrivé de voir genre un post sur Facebook et tout d'un coup, quand je vois genre les 495 likes sous ton post, j'ai même plus envie de liker parce que je me dis non, il y a trop de gens qui l'aiment.
Trop d'amour.
Fait. Ouais, trop d'amour. Et je me dis, mais c'est vrai que ça doit peut-être quand même être particulier de susciter autant de désir que tout le monde veuille bosser. Enfin,
non, ouais, mais c'est ce que je trouve génial et positif, c'est que c'est pour du théâtre, quoi. C'est ça qui est ouais. Super, c'est d'arriver à faire des pièces populaires, d'avoir vraiment un public jeune qui vient au théâtre ouais. et qui vient voir mes pièces comme on va voir une série c'est ce qui me rend le plus heureux. Donc je suis pas dupe, quoi. Tu vois, on parle pour clore le truc où tu me disais je suis plus serein qu'il y a 10 ans.
Ouais,
ouais, c'est vrai. Il y a 10 ans, bah on sait pas comment faire. Et ouais. En fait, ben moi, principalement, j'ai surtout bossé, quoi.
Ouais.
Et quand tu tires le bilan et que tu te retournes en arrière, tu dis, ben en fait, c'est ça la clé, c'est de travailler, d'être sympa, d'être bienveillant, d'avoir envie de construire quelque chose et ça te revient toujours de manière positive ou négative. Tes actions te reviennent toujours dans la gueule.
Je suis d'accord avec toi, mais quand je pensais à la colère, je pensais pas, par rapport à l'acteur, j'avais l'impression que... mais c'était un
dans
truc
la
qui
vie.
Non, je pense que c'était un truc qui nous différenciait. Ouais. C'est que toi, tu étais en rejet de l'institution et d'un certain théâtre public, que tu avais quitté le conservatoire, ouais. Que tu n'avais pas voulu y rentrer et que moi, j'étais dans une obsession de ça.
Oui, mais c'était pas un rejet, c'était une décision mûrement réfléchie. Je veux dire, le fait de ne pas rentrer au conservatoire, le fait de ne pas être vraiment fasciné par les théâtres d'État, par l'Odéon, par... Ouais. Comme dit français, ça n'a jamais été un but pour moi, quoi. Parce que je suis un peu un outsider aussi, et j'ai découvert Avignon Off très tôt, et donc je me suis dit, en fait, c'est ça qui me plaît, c'est d'avoir un public qui vient d'arriver à faire des spectacles qui font qu'il y a du monde dans la salle et que ce soit pas un public d'abonnés, que ce soit ouais. Vraiment des gens ouais. Qui ont envie de voir le spectacle parce qu'on leur a dit. Va voir ce spectacle. Et ça, c'est vraiment la culture d'Avignon Off, quoi. Et au contraire, moi, j'avais pas des thématiques que j'avais envie d'aborder, qui étaient des thématiques politiques, qui étaient des thématiques engagées, comme il faut avoir pour faire partie du subventionné. Quand on commence, en tout cas, quand on est un jeune metteur en scène, en général, il faut toujours avoir quelque chose, un propos, faire un dossier. C'est vrai. Moi, au départ, j'ai commencé à faire des classiques revisités, des pastiches, des farces, de la comédie musicale. C'était pas du tout quelque chose qui se dirigeait vers cet axe-là. Mmh. Et c'est petit à petit que, en me mettant à écrire, il a commencé à y avoir un fond qui se dégageait, mais toujours avec cette enveloppe de théâtre populaire.
Ouais.
Donc, ça a jamais été mon univers, en fait. Ouais. Même si j'ai vu des trucs géniaux. Dans le subventionné, dont je me suis allègrement inspiré, hein, tout ce qui est Mnouchkine, Brooke, c'est plein de pattes de metteurs en scène qu'on retrouve un peu dans mon esthétique, quoi.
Complètement.
Mais voilà, je préfère arriver à faire, mais je pensais pas que du tout que c'était quelque chose qui allait arriver, en fait. Moi,
ouais.
J'ai juste fait un spectacle et puis un autre.
Ouais.
Mais aujourd'hui, de me retrouver un peu dans cette position, de faire d'être un peu la jeune fer de lance du théâtre privé, on va dire, le côté, tous les spectacles sont à l'affiche, il y a encore du monde dans la salle, et puis on arrive à remplir cette salle, et on arrive à avoir un public qui est un public jeune, qui est un public de tous bords, très populaire, et d'essayer de rendre le théâtre un petit peu sexy, un petit ouais. peu... Et voilà, parce que pour moi, c'est un art populaire, comme dans les spectacles de Savary, de Mnouchkine, de Brooke, de tous ces gens, de Wajdi Mouawad, de tous ces gens que j'ai vus gamin, et je me disais, putain, c'est génial le théâtre, quoi.
Mmh.
Et c'est ça la plus grande réussite, quoi, la plus grande fierté, quoi.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ouais, c'est clair, mais donc il y avait... est-ce que donc, le travail, tu parles de travail, tu
ouais.
parles de bien se comporter, d'être sympa, mais est-ce que... au-delà de ça, par rapport à ton succès, est-ce que genre tu rentrerais dans des thèses à la, tu sais, Jim Carrey qui parle d'étoiles ou de mission? Est-ce que tu, parfois, tu t'es tenté de, d'avoir des pensées plus mystiques pour comprendre ce qui t'arrive ou pas?
Non, pas. Ouais, je me suis tourné vers un culte. Non, pas du tout. En fait, non. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment venu petit à petit. En fait, la différence, c'est qu'il n'y a pas eu genre comme quand t'es comédien et tout d'un coup t'as un rôle et tout d'un coup t'es mis en lumière. Moi, ça s'est pas fait comme ça. Tu vois, mon premier Avignon, j'avais 22 ans quand j'ai amené un spectacle. Et aujourd'hui, j'en ai 37, donc j'en ai fait 14 ou 15 Avignons. À chaque fois en amenant un nouveau spectacle, en amenant une nouvelle création, un ou deux. Et à l'époque, je me disais pas du tout, je suis jeune pour amener un spectacle. Aujourd'hui, bien sûr, je me dis, putain, j'avais 22 ans, j'ai amené mon premier truc, j'étais couillu quand même. Mais à l'époque, je me disais pas du tout ça. Mais juste année après année, le fait de continuer à créer, ben, c'est ça qui fait qu'à un moment, tu te retournes et tu dis, mais en fait, on en vit là, en fait, on s'est professionnalisé. Et puis chaque année, petit à petit, tu te professionnises de plus en plus. Et à un moment, ben, y a eu le porteur, le virage, où tu fais genre, bah, tiens, c'est marrant, il y a des gens dans la salle, ils ont payé leur place. Et ils continuent à venir, quoi. Mais on est dans un théâtre parisien, il y a des gens qui ont payé leur place à un tarif de théâtre privé, donc quand même assez élevé, et ça désemplit pas. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Bon, bah, peut-être que j'ai un truc qui intéresse les gens, ce que je raconte peut-être intéresse les gens. Et donc c'est progressif, tu vois, c'est d'année après année après année après année. Il n'y a pas un, tout d'un coup quelque chose qui s'est passé où je me suis dit genre, ça y est, maintenant c'est fait. Ouais. C'est chaque année, il y a une remise en question. À chaque nouveau spectacle, il y a une remise en question. Quand derrière le porteur, vraiment, ça a été difficile de faire le cercle parce que je me disais, bon, je vais évidemment que ça va être. C'était un coup de chance, quoi, le porteur. C'était le truc où, bon, bah, ça marche et puis le prochain, ça marchera pas. Et puis quand le cercle a marché, tout d'un coup, je me suis dit, bon, bah, ça y est, je me suis débarrassé de cette angoisse-là d'avoir fait un seul spectacle, d'être prisonnier d'un spectacle comme Rostand l'a été avec Cyrano, par exemple. Bon, bah, maintenant, ça m'a libéré et derrière Edmond et derrière Intramuros et derrière une histoire d'amour. Et à chaque fois, il y a une remise en question. Il y a un truc de bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Ou dans quel sens je vais?
Justement, une histoire d'amour.
Allez. Parlons d'amour.
Voilà, je l'ai vu dimanche dernier. J'ai adoré. Bon, je suis complètement entrée dedans. J'arrêtais pas de pleurer. Bah, c'est très émouvant et c'est très drôle aussi. Et puis après, donc j'avais déjà écouté l'interview que tu as donnée sur France Q, mais je suis allée écouter ton discours aux Molières, en fait.
Ouais.
Où tu dis qu'en fait, cette pièce t'a été inspirée.
Par une rupture.
Voilà.
Ouais, bien sûr. Ouais, bah, je me suis retrouvé tout d'un coup, l'été dernier, complètement très malheureux, en me disant qu'est-ce que je fais de toute cette tristesse. Et puis, bon, il se trouve que j'avais eu cette idée. De cette pièce un peu auparavant, mais je savais pas que j'allais là. J'ai toujours plusieurs idées en même temps dans des tiroirs et je me dis à un moment je me dis bon bah là c'est le moment de raconter celle-là. Et ben là vraiment c'était le moment de raconter celle-là puisque c'était comme ça parle de justement de la fin de l'amour et que c'est quand même une comédie dramatique ou un mélodrame en tout cas. Et ben c'était le moment de l'écrire et c'est sorti très très vite en fait. J'étais avec des amis et puis je dis bon bah voilà là, je vais tourner un truc, j'ai un peu de temps libre et puis trois jours après j'avais une première version de la pièce quoi.
Et justement, l'amour et la séparation, donne-nous des réponses. Parce que pourquoi le personnage de Marie-Camille, elle quitte comment ça s'appelle le
Katia.
Katia, pourquoi elle la quitte?
Mais elle la quitte parce que déjà, elle l'explique dans la pièce. Mais
parce qu'elle tombe pas enceinte elle-même.
C'est pas elle qui tombe enceinte, c'est l'autre qui tombe enceinte. Ouais. Et du coup, elle se retrouve un peu jalouse parce qu'elle se rend compte qu'elle veut un enfant, elle veut avoir un enfant, porter un enfant. Et puis, ça la pousse un peu à sortir et elle rencontre quelqu'un. Et là, le verre est dans le fruit. Et quelques mois plus tard, elle va quitter Katia parce qu'elle est amoureuse d'un autre. Et qu'elle se projette avec un autre et qu'elle se dit, il pourra m'apporter ce que Katia pourra jamais m'apporter, c'est-à-dire des enfants. C'est horrible, mais c'est la vie, malheureusement, ça arrive, ce genre de choses. Et voilà, et je pense que la raison pour laquelle tout le monde pleure devant cette pièce, c'est parce que c'est des thématiques qu'on a tous connues. Tout le monde s'est fait larguer, tout le monde a eu un patient qui est un ami malade, tout le monde a eu... Enfin, voilà, c'est le nombre de gens qui viennent nous voir à la sortie et qui viennent me dire, vous savez, moi, j'ai vécu ça et j'ai vécu ça et qui se retrouvent dans ce qui arrive à ces personnages, mais ce qui permet à la pièce de pas sombrer dans un espèce de pathos terrible, c'est que malgré tout, il y a de l'humour, il y a une sorte d'humour de résistance de ces personnages qui sont frappés par des drames et des tragédies, mais qui sont des tragédies du quotidien, en fait.
Tout le monde s'identifie, et c'est vrai que ta pièce, elle est assez réconfortante parce qu'elle offre... quelque chose de très intelligent en effet sur le côté fou du désir d'une femme de vouloir être enceinte si je pense que les gens viennent voir cette pièce et continuent, c'est aussi parce que il y a pas de réponse au mystère, et c'est ça qui est aussi
au mystère de l'amour.
Et au mystère de pourquoi tout d'un coup il y en a un qui aime et l'autre qui aime plus.
C'est terrible, c'est horrible et c'est très injuste, mais c'est la vie en fait. Et en fait, ces personnages y répondent d'une manière très simple, sans se plaindre. Il y a quelque chose de très théâtral dans la façon justement d'encaisser ces nouvelles. Ils les prennent avec une sorte de dérision, une sorte d'humour de désespoir, c'est pour ça qu'on les aime, parce que s'ils passaient toute la pièce à dire je suis si malheureux, etc. Bon, on dirait bon, ça va, mais c'est pas le cas, au contraire, ils ont cette espèce de truc où ils s'accrochent aux dernières branches de possible de l'amour et ils réussissent à s'accrocher à ce qui reste, quoi. Et que ce soit un souvenir ou que ce soit un espoir, ils s'y accrochent, quoi.
Et quand cette femme, elle t'a quitté, toi, rapidement, ta façon de te consoler, ça a été donc d'écrire ?
Ouais, enfin, non. En fait, il n'y a pas vraiment de façon de se consoler. Hein. C'était, je pense que la seule chose qui répare, c'est le temps. Et c'est comme ça. Et c'est horrible, mais c'est comme ça. Et c'est ce que je dis toujours à mes potes qui sont en séparation, etc. Je dis, bah oui, c'est normal, tu vas souffrir. Et que tu t'évertues ou que tu plonges dans l'alcool ou que tu choisisses de te jeter dans le travail à corps perdu ou que tu vois des gens ou que machin, bah, de toute façon, il n'y aura que le temps qui va effacer le souvenir d'un autre. On dit souvent que le deuil d'une relation, c'est à peu près la moitié de la relation.
Ouais. C'est vrai. Moi, j'aurais dit le double.
Non, c'est particulier, Rosa, pour toi, je pense.
Certainement.
mais non, ouais, c'est ça. Et y a que le temps, quoi. Bon, après, évidemment, il faut faire quelque chose de cet état, je pense.
Et t'es rapidement retombé amoureux de quelqu'un d'autre, après...
Relativement. Ça m'a pris quelques temps. Ça m'a pris quelques mois. Mais quand je l'ai rencontré, je lui ai tout de suite dit, écoute, n'attends rien de moi. Vraiment, je pourrais pas te donner autre chose parce que je suis encore amoureux de mon ex, quoi. Et c'est paradoxalement, c'est cette honnêteté en quelque sorte qui a fait qu'on s'est un peu apprivoisé petit à petit et qu'il n'y a pas eu tout de suite un truc avec trop de pression dans cette histoire. Et voilà.
Et donc c'est facile pour toi de tomber amoureux ?
Non, c'est rare que je tombe amoureux. Ouais. Je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais j'aime beaucoup de gens. J'ai plein d'amis, etc. Et j'adore. Et j'ai beaucoup d'amour pour eux, et pour mes proches, et pour ma famille, et pour tout ça. Mais l'amour, le sentiment amoureux. Non, il est assez rare en fait. Il y a plein de choses qui rentrent en compte.
Qu'elle ait pas besoin de toi.
Est-ce qu'il faut qu'elle ait pas besoin de moi ? C'est un petit bonus, ouais, c'est sûr. Mais il faut qu'elle ait conscience qu'il va falloir me partager avec plein de choses, avec mon taf, avec ma vie, avec mes gens, avec les gens que je vois, avec tout ça. Et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un amour rassurant, fusionnel. Moi, je suis pas capable d'offrir ça puisque en fait, j'ai pas le temps et l'énergie et l'envie. Moi, j'aime un amour serein et apaisé avec de l'air et avec une autonomie. Et la plupart de mes amis proches que j'ai depuis longtemps sont des amis très autonomes, sont des amis qui vraiment initient des choses, qui ont une force d'initiation, qui vont organiser des soirées, des vacances, qui vont travailler, qui vont écrire, qui vont créer. C'est des gens qui sont qui vont de l'avant. Pas des gens qui tirent vers le bas et qui ont un besoin constant. Moi, je pense que je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui est constamment dans le besoin. J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui a une certaine autonomie et avec qui on va avoir une relation. Mes relations les plus longues, en tout cas, c'est ce type de relation, pas même professionnelle, que ce soit mon producteur ou mon agent, c'est des gens avec qui je travaille depuis 15 ans. C'est pas une relation passionnelle, c'est pas une relation feu de paille, c'est une relation qui se construit un peu...
un peu de manière posée et mature. Et voilà. Et après, dans une ouverture, dans un dialogue en permanence, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation, quoi, c'est pas possible.
Ouais. Tu ne voilà. disputes pas ?
Bah, justement, quand il y a de la dispute, c'est que ça commence à pas sentir bon, quoi. Moi, je suis pas quelqu'un qui, enfin, d'instinct, je suis pas quelqu'un qui va chercher à la discorde. J'ai trop l'habitude, justement, dans le travail, quand on gère une troupe, hein, quand on gère une équipe, il faut savoir désamorcer les conflits. Et je pense que c'est une clé essentielle dans un couple de savoir désamorcer le conflit, hein, de l'appréhender et de se dire bon là, je vais être un petit peu plus intelligent que l'autre et je vais éviter de prolonger ce conflit. Je vais sentir qu'il y a un truc qui peut partir et je vais dire bon, calmons-nous, oublions ça, je vais lâcher du lest et après j'en reparlerai un peu au calme. Et ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans le boulot déjà. Quand tu manages une troupe, bah, en fait, il faut que tu sentes les conflits, il faut que tu arrives à leur donner de l'air, il faut que tu arrives à les apaiser pour que tout le monde s'entende bien, hein, surtout sur des affaires qui vont durer longtemps. Et moi, mes spectacles, bah, c'est des spectacles qui durent longtemps, comme des relations.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-ce que tu arrives à trouver avec les femmes un rapport d'égalité? Parce que je me mets...
À ma place.
J'imagine... Je me dis si on était en couple. Non, mais je me dis c'est pas évident. Je me mets à la place de tes copines. Ouais. Peut-être de supporter ton succès.
Ça c'est parce que toi tu cherches le succès, mais tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'a pas une ambition dévorante et donc moi dès que je sens qu'il y a une compétition dans le couple, c'est que ça va pas être possible. C'est vraiment, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Moi la compétition, que ce soit en amitié ou en amour, je peux pas. Hein, il faut qu'il y ait de la bienveillance pour l'autre et tout le monde n'a pas une soif de succès. Tout le monde n'a pas ce désir là. Moi j'ai ce truc parce que je voulais être comédien, parce que je voulais créer des spectacles. Donc forcément, c'est lié au succès. Parce que pour créer des spectacles, il faut qu'il y ait du monde dans la salle, etc.
C'est ça.
Mais moi, mon désir de base, c'était pas d'être célèbre ou d'avoir du succès ou d'avoir de l'argent. C'était pas ça mon
bien
désir.
Sûr,
mon désir,
sûr.
C'était de faire du théâtre, vraiment.
Mais pour qu'il y ait des gens, c'est...
Voilà, c'est nécessaire. C'est une condition nécessaire. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Déjà, tout le monde ne fait pas ce métier-là. Et il y a plein de gens qui font complètement autre chose et qui n'ont pas du tout cette soif de succès. Donc, ils peuvent vivre ça de manière très sereine. Et mes relations les plus longues, c'était avec des filles qui n'avaient pas dû, avec qui il n'y avait absolument pas cette question-là, quoi. La question de mon succès ou pas. Moi, j'ai eu des relations longues avec des gens à qui je rentrais, ils me disaient alors c'était bien ta journée, oui c'était cool, bon bah c'est super, et puis il n'y avait pas besoin de... Et moi ça m'allait très bien parce que j'ai... En fait le truc c'est que dans ma vie justement, j'ai tellement de retours et d'amour en fait, de manifestations d'amour d'un public, de gens, de comédiens, de tous ces gens qui travaillent, etc. Et évidemment c'est des émotions énormes de jouer, de créer, que en fait... dans le couple, j'ai pas besoin de ça en fait. J'ai pas besoin de reconnaissance en fait. Je l'ai déjà cette reconnaissance.
J'ai l'impression que ça c'est un privilège masculin. J'ai l'impression que les... Que j'ai l'impression que c'est une injustice de l'hétérosexualité qui est que les hommes arrivent à tomber amoureux de femmes.
Qu'il n'admire pas.
Ouais.
Mais si, parce que tu peux admirer quelqu'un pour d'autres qualités que sa capacité à avoir du succès, en fait. Moi, je vais admirer la sagesse de quelqu'un, je vais admirer Tu vois, il y a plein de choses que je vais admirer, le sens de l'humour, la capacité de quelqu'un. Moi, ce que les personnes à qui je suis resté le plus longtemps, c'est des filles qui arrivaient à m'apaiser, qui me donnaient un sentiment d'apaisement. C'est-à-dire quelque chose où, moi, je suis tellement... je dois faire face à beaucoup de stress dans la vie quotidienne parce que forcément, une entreprise, des gens, rien que ça, des spectacles, le stress du succès...
Une pandémie mondiale.
Une pandémie mondiale, enfin, tout ce qui peut arriver. Non, voilà, c'est un métier assez stressant. Toutes les tensions qu'on peut avoir dans le métier sont très stressantes. Et donc, quand je vais avoir quelqu'un qui me rajoute du stress, ça va pas être possible. Mais par contre, je suis en admiration de quelqu'un qui a la capacité, l'intelligence relationnelle. C'est quelque chose que j'ai
j'admire beaucoup. Et à côté de ça, je vais admirer plein d'autres choses, parce que même si elle n'a pas de succès, je peux admirer sa façon d'écrire, de parler, de sa façon de s'occuper de ses proches, de ses parents, de ceci, de cela, son métier, ce qu'elle fait dans son métier. Ça peut être, c'est pas forcément un métier artistique. Ça peut être un métier passionnant, ça peut être, je peux admirer sa culture, je peux admirer sa richesse culturelle, ses origines, ça peut être quelque chose de très différent. Moi, j'adore être avec quelqu'un qui n'est pas français, qui n'est pas française, ou qui est m'intéresser à tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut admirer chez l'autre.
Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que je ne sais pas si je dois culpabiliser d'avoir largué il y a plusieurs années un mec qui était un peu ce que tu décris, c'est-à-dire il n'était pas artiste, c'était un architecte plutôt, qui réussissait pas mal sa vie, quoi, mais et qui était beau et gentil et plein de qualités. Mais
et tu t'es dit, je l'admire pas assez, quoi.
Ouais.
Ah bah, c'est honteux.
Non, mais j'avais envie qu'il ait envie d'être le meilleur des architectes, en fait. Alors que pas du tout, il voulait travailler avec... Il voulait plutôt être dans des esprits de collectif.
C'était un super mec.
Ouais, c'était un super mec.
Bah, qu'est-ce que t'as fait ? Aujourd'hui, il est marié, il est père de famille.
Aujourd'hui, alors c'est marrant parce que je suis quand même pote avec pas mal d'ex, mais lui, alors, vraiment, il me déteste. Il ne me répond pas.
T'imagines ? Ouais. Bah ouais, t'imagines, tu lui as reproché de manquer d'ambition.
Je lui ai jamais reproché ça, en fait. Je l'ai juste quitté.
Par texto.
Pas du tout. Je l'ai quitté une première fois et j'ai quitté peu de mecs dans ma vie. C'est moi qui me fais larguer. Hein. Lui, je l'ai quitté.
C'est vrai que d'habitude, c'est toi. Et là, non. Mince. Justement, tu t'es dit un truc qui va pas. Il est sympa, il est mignon, il est beau. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, bah, je vais le quitter.
Putain. Mais non, mais la première fois que je l'ai quitté, en plus, je lui ai dit ça marche pas. Et il m'a dit donne-moi une chance. Et j'ai dit ok. Sûr. Et résultat, je lui ai donné une chance. Puis en fait, je me suis rendu compte que.
Ouais, ça sent déjà mauvais quand t'as l'épée de Damoclès en plus.
Ouais, non, mais de toute façon, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais il avait un vrai défaut qui fait que je regrette pas.
D'accord.
C'est qu'il avait fumé la beaucoup drogue. De joints. Non, mais il fumait encore pas mal. Et que résultat, il avait tellement, tellement fumé de joints.
Ouais.
Qu'il avait la langue défoncée, en fait,
bien.
Une langue de...
Bien, si tu te reconnais dans ce portrait, on pense à toi et on te dédicace ce podcast.
Non, mais je sais qu'il ne l'écoute pas, il ne veut plus rien savoir de moi. Mais donc, résultat, un défaut physique fait que, tu vois, je veux dire, tu ne peux pas rouler des pelles à quelqu'un sans avoir l'impression d'avoir une râpe à gruyère, c'est pas possible, quoi, en vrai.
Écoute, je pense qu'on peut arriver à surmonter ça, mais bon, chacun sa perception de...
Tu crois qu'on peut surmonter ça ?
Ouais, je pense.
Sérieux ?
Ouais, je pense. Et, c'est-à-dire que le reste de ses qualités que tu décris avait l'air quand même de surplacer le fait qu'il ait un peu la langue râpeuse, quoi. Mais bon, chacun son...
Oh putain, merde. Sa vision, C'était genre le truc qui me faisait déculpabiliser.
Ah, c'était sa langue râpeuse.
Non, parce que quand même, pendant les cunis, à chaque fois j'y pensais, tu vois, j'étais là genre, ça gratte un peu ce truc. Et ça, ça aurait pas été viable sur toute une vie.
Écoute,
là, t'es d'accord.
J'entends. Je peux pas vraiment témoigner, mais... Non, mais je vois le côté un détail, mais je pense qu'a priori, après, quand t'es vraiment dans une relation amoureuse, c'est pas un détail, c'est un ensemble de détails.
T'as jamais, toi, quitté quelqu'un pour genre un détail tout bête, futile, et que tu supportais pas, en fait ?
Écoute, pas quelqu'un dont j'étais amoureux.
Ah oui, non, d'accord.
Tu vois, ça a pu être une relation comme ça, où je me dis, ça m'énerve, et non, quoi. Mais pas quand t'es dans un truc qui dure depuis plus d'un an, on va dire, t'es pas là-dessus, c'est pas un détail qui fait que tu quittes quelqu'un, quoi, tu vois.
Oui.
Et puis je suis plus... Non, je suis plus ouvert que ça. J'aime bien justement, au contraire.
Les défauts.
Ouais, les défauts, la différence. Enfin, en tout cas, au début. Après, pour tomber amoureux, c'est autre chose. Mais non. Attends, je réfléchis. Un détail particulier. Non, je pense.
Vas-y. Tu penses à un truc là, en plus.
Non, pas du tout, pas du tout. Mais non, mais je te dis, c'est plus un ensemble de trucs qui s'accumulent. Il y a jamais un truc qui fait bon, allez, ça suffit, quoi.
Bah, si la meuf a vraiment une haleine de merde, par exemple.
Ouais, mais c'est pas pour ça que je vais la quitter, tu vois.
D'accord. Ah ouais. Putain.
Non, non, ça c'est nul, enfin. C'est
mais
un
alors
peu nul.
Comment, ouais. Oui, c'est.
Tu
juste
dis,
de
tu dirais, tu,
plus
tu effectivement, si la meuf a une haleine de merde, tu t'en souviendras en disant bon, quand même, cette meuf elle avait une haleine de merde. Mais franchement, de dire écoute, je te quitte parce que t'as une haleine de merde, alors que la meuf elle est super, elle est géniale, elle est hyper.
Non, mais
métier,
tu le dis pas.
Non, mais même tu le fais pas. Enfin, tu vois, tu quittes pas quelqu'un parce qu'elle a une haleine de merde.
Non, mais ça s'ajoute. Parfois, c'est un détail qui à la fin t'irrite. Parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a que des choses bêtes et un peu vaines et ridicules qui font qu'on quitte. Je ne sais pas s'il y a des grandes raisons, des vraies raisons.
Je ne suis pas sûr. Moi, je suis plus sur des grandes raisons et des vraies raisons que des, que des. Après, chacun sa conception des choses, tu vois. Mais je suis quelqu'un de réfléchi.
Tu crois que c'est vraiment des défauts ? Parce que j'ai l'impression que c'est ce que tu disais, c'est oui, c'est vrai, on aime les gens pour leurs défauts. Et en plus, moi, ce n'est pas vrai parce que je suis déjà. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Au final, j'en sais rien pourquoi j'ai quitté ce métier.
On dit qu'on aime les gens, on tombe amoureux pour leurs défauts et on les quitte pour les mêmes défauts. Mais moi, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, c'est vrai que oui, quand j'étais amoureux, les défauts des gens, au contraire, je les trouvais mignons. Et des filles, je les trouvais mignons et adorables et ça ne me dérangeait pas.
Ouais.
Et c'est plus quand la relation se termine où je me dis, bon, bah, peut-être la prochaine fois, je vais essayer de ne pas avoir voilà, quelqu'un qui déteste le sport, par exemple, j'en sais rien, ou quelqu'un qui supporte pas les jeux de société, alors que moi j'adore les jeux de société.
Ouais.
Ah, la prochaine fois, ce serait chouette d'avoir quelqu'un qui. Voilà, qui est peut-être, je sais pas, plus, qui a plus de confiance en elle, ou j'en sais rien, enfin, des choses comme ça, quoi. Ouais. Mais c'est pas pour ça que ça se termine.
Ouais. Voilà. Et là, la pièce Une histoire d'amour parle beaucoup du désir d'enfant. C'est toi, c'est quelque chose que. Désolée, j'ai l'impression psychologue. De remuer un petit couteau.
ouais, non, c'est quelque chose. C'est marrant quand j'étais. Ouais, c'est quelque chose que j'idéalisais un peu quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune.
Oui.
Je me disais, avoir un enfant, génial, machin.
Tu puis après, m'en avais parlé.
Ouais, plus les années passent, puis bon, la vie commence, et puis on se dit, oh, en fait, c'est chouette aussi de profiter de sa vie.
T'avais failli être papa.
Ouais, ça m'est arrivé une fois. Très bonne mémoire. Ouais, ça m'est arrivé une fois avec une Espagnole qui avait 10 ans de plus que moi quand j'avais une vingtaine d'années, et puis elle est tombée enceinte. On pensait que c'était moi, en fait. C'était soit moi, soit un autre. Et donc, pendant 3 mois, on pensait vraiment que ça allait être moi. Et puis, finalement, c'était l'autre. Donc, ça a résolu le problème.
Mais tu t'étais dit, je me souviens, tu t'étais dit que si ça avait été toi, t'aurais aimé être papa.
Je m'étais dit, écoute, on n'est pas ensemble. Au moins, ça résout ce problème-là. On n'a pas à mener de front l'éducation d'un enfant et le couple. Ça aurait pu être complètement viable. Cet enfant va vivre. Va avoir une double culture, française et espagnole. Moi, je suis jeune, tu vas avoir un jeune papa, ça va être cool, quoi.
Enfin, ouais.
Bon, j'avais pas trop d'idées à l'époque de du travail que c'est d'avoir un enfant, bien sûr, mais à part ça, depuis quelques années, bah forcément, passer 35 ans chez un mec, on commence à se dire, tiens, puis on a tous nos potes qui ont des mômes, etc. Donc, je commence à me dire, peut-être que... Mais ça se fait à deux.
Ouais, mais tu serais super, en plus.
C'est gentil, gentil. Bah écoute.
Ouais. Tu voudrais quoi comme.
Est-ce comme que
tu...
enfant
Ouais, non, comme. Tu penses quoi à des qualités de.
Oh, je pense que quand t'as un enfant, tu l'aimes quoi qu'il.
Non, mais je pense par exemple, moi, tu vois, c'est un homme avec qui faire des enfants, j'aimerais bien, si possible, qu'il soit bon en maths.
D'accord.
Pour lui transmettre ça.
Parce que toi, t'es nul.
Ouais.
Ouais, c'est ça, des trucs qui complètent
un
peu.
Des trucs complémentaires,
quoi.
Des choses.
Je pense que t'as des schémas que tu reproduis. Moi, par exemple, mes parents sont de cultures différentes. Ma mère est anglaise, mon père est français. Et puis mes grands-parents aussi. Mon grand-père était polonais, mon autre grand-mère australienne, etc. Donc il y a ce truc-là d'une envie de mixité.
Mmh.
Hein, où clairement, j'idéalise un peu ce côté. On parle plusieurs langues aux gamins. Et ils grandissent avec une culture multiple qui est, je pense, un gros atout, la culture multiple quand t'es créateur ou créatif, tout simplement, parce que, en fait, t'apprends qu'il n'y a pas juste une façon de penser, il y en a plein, et qu'il y a plusieurs points de vue, etc. Et ça t'ouvre un peu au monde actuel. Mais à part ça, on verra.
Et cette femme qui t'avait quitté et qui t'a inspiré la pièce Une histoire d'amour, tu penses pas à la recontacter c'est parce que c'est non mais c'est vrai, c'est dur de savoir vraiment.
On va le
vraiment.
Faire en direct. Non mais on continue.
On échange, on continue
d'échanger. Voilà. Elle est venue voir la pièce d'ailleurs.
Ok, waouh.
Elle m'a pas dit qu'elle venait. Voilà, elle m'a prévenu le lendemain en disant voilà, je suis venue. Je dis alors. Elle m'a dit écoute, j'ai pleuré pendant 1h30. Hein,
ouais.
Forcément. Hein.
Ouais.
elle a vu beaucoup de nous dans la pièce quoi. Mais bon, c'est la vie. Moi, je comprends. En fait, il y a pas de malveillance. C'est comme ça. Moi, je pense qu'il y a un truc. Et c'est marrant. Ça rejoint l'écriture. Un bon auteur, il doit être capable d'empathie. Il doit être capable de se mettre à la place de ses personnages.
Mmh.
Un bon dialoguiste aussi. Pour que les dialogues soient bons, il faut être capable d'imaginer ce que pense le personnage à ce moment-là.
Mmh.
Et dans la vie, en fait, quand t'es capable d'empathie, tu comprends pourquoi les gens agissent.
Tu comprends pourquoi quelqu'un va tout d'un coup cesser de t'aimer. Tu vas dire, bah ouais, en fait, je me mets à sa place. Elle vivait ça à ce moment-là, c'était ça son point de vue. Donc forcément, bah, elle a commencé à sortir. Et puis finalement, bah, elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle m'a quitté. Comme Justine et Katia, par exemple. Et tu comprends ce que vit l'autre. Et à partir du moment où tu comprends, bah, tu lui en veux moins, en fait. Tu souffres, t'es triste, mais tu lui en veux moins parce que tu comprends ce qu'elle a vécu. Et
mais je pense que beaucoup de choses. La blessure narcissique, elle est quand même.
Oui, mais la blessure narcissique, on s'en fout un peu. Enfin, c'est pas quelque chose de. Mais oui, c'est pas l'essentiel.
Mais tu te rends compte de la chance que t'as. Alors, ça veut dire que t'as une confiance en toi tellement solide que tu peux voir les choses de cette façon. Que c'est ça, je pense, que ta force. Enfin, parce que.
Alors, c'est sûr que la confiance, c'est quelque ça chose qui m'a servi à mort dans le boulot, ça c'est sûr. Hein. Parce que pour créer, de toute façon, si on n'a pas de confiance en soi, on fait rien, quoi. Mais il n'y a pas que ça, c'est pas que de la confiance en soi, c'est une capacité à se dire, à comprendre qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, on peut avoir une incidence dessus, hein, on peut travailler sur sa relation, on peut travailler sur qui on est nous, mais on ne peut pas travailler sur qui est l'autre.
Hein,
on peut juste lui apporter des choses, on peut juste l'écouter, on peut juste communiquer avec, on peut juste comprendre, on peut s'adapter, mais on ne peut pas changer, on ne peut pas être la personne, on ne peut pas décider pour elle ou faire pour elle. Donc, les choses qui ne dépendent pas de nous, ça ne sert à rien de s'évertuer contre ces choses-là, puisqu'elles arriveront quoi qu'il arrive. On peut gueuler tant qu'on veut contre la pandémie, mais en fait, elle est là. Donc, on fait avec. Quelqu'un qui nous quitte, on peut choisir de s'évertuer, de crier, de taper du pied, mais en fait, elle ne nous quittera pas moins. Elle nous quittera quoi qu'il arrive. Donc, la meilleure façon de réagir face à ce genre d'événements qui ne dépendent pas de nous, c'est de les accepter et de les comprendre. Ou de les comprendre et les accepter.
Et comment, toi, tu te rends disponible à la rencontre? Parce que j'ai l'impression que peut-être les gens qui nous écoutent
Tinder,
ressentent ça. Non, sérieux?
Non, mais comment ça, disponible à la rencontre?
C'est très dur de... Alors, peut-être pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais...
De rencontrer des gens?
Aujourd'hui. Non, mais d'être disponible, d'être dans un état où tout d'un coup, tu vas être charmé, où tu vas... Trouver la personne belle ou tu vas avoir...
Qu'est-ce que t'appelles disponible? Moi, je pense que tu parles d'exigence, pas de disponibilité, là.
Peut-être.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Moi, trouver la personne belle, c'est pas une question de disponibilité. Être disponible, c'est juste, tu veux dire, laisser sa chance à quelqu'un.
Est-ce que toi, c'est quoi, par exemple, est-ce que t'as eu des rencontres saugrenues dans des lieux où tu t'y attendais pas du tout?
Bien sûr, plein de fois. Dans des endroits improbables, des pays étrangers, des moments inattendus. Mais moi, j'ai une grande ouverture à la rencontre. Il y a un truc où, au contraire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup rencontrer les gens. Et puis en plus, ça me nourrit dans le boulot aussi, de parler à des gens, de leur poser des questions. C'est des choses où, des fois, on découvre une anecdote, une histoire, et on se dit, tiens, ça va servir à une histoire que je développe. Donc, j'ai cette habitude d'aller parler aux gens et de leur demander un peu, alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous venez d'où? C'est quoi votre histoire? Etc. Donc, la rencontre, j'en ai carrément l'habitude, en fait. Et après, trouver quelqu'un beau, c'est marrant, il y a un truc où je me rends compte que dans l'amour, dans la vie, moi, je trouve beaucoup de gens beaux. Hein. Vraiment, j'ai une grande... Comment dire? Je ne suis pas très exigeant, en tout cas physiquement.
Ouais, vraiment...
J'ai eu des aventures avec des filles qui étaient un peu banales, mais à qui je trouvais du charme, moi beaucoup de charme, et je suis tombé amoureux de plein de filles que je trouvais moi toutes belles, mais leur beauté elle vient pas juste de l'enveloppe, quoi. Il y a un truc où les longues histoires que j'ai eues, je les trouvais plus belles après 2 ou 3 ans qu'au début. Elles n'avaient pas changé physiquement. Juste, moi, je les connaissais mieux. Et donc, voilà, je les voyais plus belles, en fait. C'est vraiment la rencontre, c'est pas très compliqué.
Est-ce que tu sens que c'est toi qui as besoin de séduire ou t'aimes être séduit? Est-ce que tu pourrais, par exemple, si c'est une femme qui est-ce que c'est quelque chose qui peut-être un peu te rebuter si tu sens qu'elle a décidé avant toi qu'il allait se passer quelque chose entre vous?
Je crois pas.
Ouais.
Non, je crois pas. Ça dépend de ce qu'elle a décidé, en fait.
Du reste de la soirée.
C'est-à-dire que si elle a décidé qu'on allait se marier, je peux lui dire peut-être prenons un peu notre temps. Mais non, pas du tout. Ça dépend de comment c'est fait. Mais c'est vrai qu'en général, on est encore dans une société où c'est l'homme qui fait le premier pas, quoi.
Ouais, donc, c'est clair.
Pourquoi ? Parce que toi, tu vas voir les gens et tu leur...
Ouais, écoute...
Un peu direct ?
Un peu, peut-être, ouais. Je sais, c'est, en tout cas, c'est rare quand est-ce que... Je crois que j'aime bien être l'initiatrice. En fait, je crois que j'ai une posture assez virile, en fait. Mm-hmm. Ça, de temps en
qui
temps...
Qui fait
peur ? Bah... Ça m'est arrivé très rarement dans ma vie que ce soit un mec qui décide et qui me charme et qui vienne me chasser et que je cède. Ça m'est arrivé peu de fois.
Ouais, mais est-ce que tu n'as pas aussi une attitude un petit peu cassante envers les gens qui viennent te voir de prime abord ? Et au contraire, pas forcément ouverte et bienveillante et apaisée, tu vois ce que je veux dire ?
Oui. Non, c'est-à-dire que...
Je me permets. Hein.
Non, mais t'as raison. C'est... Ah bah alors, je t'en prie, permets-toi. C'est... Ouf. C'est-à-dire que j'ai envie qu'il n'ait pas besoin. Je préfère que c'est... Je ne sais plus. Ou alors qu'il soit suffisamment intelligent pour faire semblant. Tu vois, parce que j'étais un week-end cet été avec des amis.
Ouais.
Et moi, je me disais, super, ça va être des amis du mec de ma pote. Ils sont tous ingénieurs, ils ont fait Polytechnique. Donc super, je vais rencontrer un mec pété de thunes, hyper intelligent.
Très bien.
J'aurai des enfants qui seront surdoués et on vivra dans le 9e arrondissement, ça sera parfait.
Le 9e, tu vises pas plus haut que le 9e, mais c'est bien. 9e, c'est bien.
C'est bien. Et donc, tu vois, j'étais prête à la rencontre. J'avais envie, tu vois.
Finalement, non.
Non, alors, il y avait un gars. Alors après, peut-être que je ne sais pas si c'est physique ou en effet, déjà physiquement, sa tronche ne me revenait pas trop. Ou si, il faisait trop d'efforts, en fait, envers moi. C'est-à-dire que peut-être que... En fait, lui, il me connaissait. Moi, je ne le connaissais pas parce qu'au mariage de cet ami, j'avais fait un discours. Mmh. Je ne l'avais pas remarqué, mais lui, je ne sais pas, ses bandes de potes, ils étaient tous déguisés. Peut-être qu'il avait essayé de condenser ensemble. Je ne me souvenais plus. J'étais me coucher tôt, j'en sais rien. Mais donc, résultat, il était très en demande de... Ouais, machin. Et puis, à un moment, genre, du bout de la table, il m'a dit... Je sais plus. Non, en un fait, à un moment, moi, j'ai dit genre, je trouve que tout le monde est moche et que les gens sont moches. Et il m'a fait, toi, t'es belle. Et ça m'a flattée, hein, parce que c'était pas où je me sentais pas belle.
T'as rien trouvé à répondre.
Oui, je suis restée là comme une conne, un peu.
T'as dit merci quand même. T'as dit.
Non, je crois pas.
T'as pas dit, bah toi aussi.
Non, j'ai certainement pas dit toi aussi.
Parce que tu lui dis, il te plaisait pas.
Non, il me plaisait pas.
Bon bah c'est réglé alors.
Voilà, c'est tout. Il me plaisait pas et plus il insistait et en fait c'est ça, c'est que plus il insistait, plus il comprenait
il te plaisait,
pas.
Quoi.
Moins il me plaisait.
Évidemment.
Et il recevait pas mes signaux et résultat ça m'a vraiment vraiment.
Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un mec qui vient te parler et qui te plaît et que juste par amour de la joute ou parce que t'as envie d'être un peu drôle ou quelque chose comme ça, tu renvoies un peu sur les roses?
Hélas, très rarement, et il faudrait que j'apprenne plus à le faire. Non, hélas, très rarement. En fait, quand un mec me plaît, je crois que je suis beaucoup trop facilement acquise, en fait. Je suis timide, je rougis, je dis oui.
Ouh là là, qu'est-ce que c'est ? C'est l'heure ?
Ça veut dire qu'il
est... Ça fait déjà une heure ? Non.
Ça fait déjà une heure,
mais
je
non.
te jure.
C'est vrai ?
Oui.
Ouh. Incroyable.
Il est 14h20.
On a commencé à 20, pas à 30 ?
On a commencé à 13h30. Ouais, il nous reste 10 minutes.
10 minutes. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Bah, allez, il est temps de résoudre tes problèmes couple.
Non,
et
ça sera...
Tes problèmes de vie, c'est l'heure de la thérapie, Rosa. C'est
non,
parti.
Non, c'est l'heure du questionnaire de Proust d'Alexis Michalik.
Oh non.
Des petites questions. Tu les aimes pas, les questions du questionnaire
de Proust, là,
Proust,
le mot préféré, tout ça, là ?
Ouais.
Oh là là, bon, vas-y, allons-y.
Alors, quelle est la qualité ? Tu trouves ça nul ? Tu trouves ça complètement gamin ?
Non, mais c'est, disons que c'est pas la première fois, je crois, que
ah ouais, c'est vrai, tout le monde te le pose, la question.
Ouais, vas-y, quelle est la qualité ?
Bon, bah alors, je vais te poser des questions plus originales.
Question
quelle est ta
à
position,
toi. Ta position sexuelle préférée ? Non.
Non, c'est vrai ? Tu veux pas le dire ?
Bah, je sais pas. Bah, vas-y, mais on peut y aller. Je sais pas si j'ai une position sexuelle préférée.
Ah ouais ?
Ouais, non, je pense pas.
Toutes ?
Non, mais
alors, est-ce qu'il y a une position sexuelle que t'aimes le moins ? La sodomie, peut-être.
Ouais, c'est pas très agréable. Non, les trucs un peu inconfortables, quoi, tu vois, les trucs.
Trop technique.
Ouais, moi j'aime bien le confort, en fait.
Ouais.
J'ai pas un amour de la.
Ouais.
Enfin,
la haute voltige.
De l'extrême, de la haute voltige, tu vois, j'aime pas le fait de pouvoir être surpris, tu sais, le côté lieu public, c'est pas trop mon truc.
Tu vois ? Surtout que t'es un peu connu quand même.
Un petit peu, en plus, ce serait dommage.
Bah c'est bien, on va finir par des questions sexuelles.
Alors,
vu que t'as dit
quel
oui.
est ton mot préféré de la langue française, Rosa ?
Tout s'y revient. Non, comment est-ce que tu réussis à avoir des orgasmes simultanés avec tes partenaires ? pendant l'acte sexuel. Parce que ça, c'est un vrai, une vraie question. C'est vrai ? Ouais, c'est une vraie question.
Bah oui, ça arrive, oui.
Non, mais c'est hyper rare quand même. C'est très compliqué.
Ça dépend des partenaires, du moment, ça dépend de plein de choses quand même. Mais après, si t'es à l'écoute, t'es à l'écoute. Non ? Le but, c'est d'y arriver. Est-ce que c'est le but C'est ça ? Pour toi, c'est le but, c'est l'orgasme simultané.
Non, c'est parce que ça m'est jamais arrivé.
Ah ouais, jamais.
Ça m'est jamais arrivé.
Jamais arrivé de ma vie. Jamais, Rosa.
Merde, jamais. Non, ah, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est toujours arrivé décalé.
Est-ce que tu as déjà eu un orgasme ?
Non, mais merci, j'ai eu des orgasmes. Et d'ailleurs,
combien ?
Je suis. Beaucoup. mais c'est des orgasmes souvent liés aux préliminaires. J'ai jamais eu d'orgasme vaginal. Alors, ça n'existe pas l'orgasme vaginal, mais apparemment, tu peux avoir en faisant l'amour à deux. Mm-hmm. Normalement,
tu peux avoir un orgasme. Oui,
tu peux avoir un orgasme, si, mais c'est le clitoris quand même. Ça veut dire qu'il faut que le pénis stimule l'endroit à l'intérieur du clitoris. Et si possible, avec les mains, ça aide. Toi, tu y arrives, ça, avec tes partenaires, vous y arrivez. Dis quelque chose qui aide les gens qui ont des difficultés. Genre, reconnais que c'est pas évident, si. Quand on a Alexis Michalik et qu'on a 20 Molières, en fait, c'est aussi.
Non, mais ouais, enfin, ça arrive, ouais.
Ça arrive, voilà. Oui. Mais on est d'accord, c'est quand même... Moi, c'est un truc que je trouve aussi, encore une fois, je me demande comment ça se fait que ce soit si compliqué techniquement,
pour toi.
En fait. Non, mais pas que pour moi.
Mais je comprends, mais après, à partir du moment où t'as du plaisir, c'est l'essentiel.
Oui, non. Enfin, je veux dire, c'est cool d'avoir du plaisir, mais c'est sympa d'avoir un orgasme aussi, on va pas se mentir.
Ah, écoute, je peux pas t'aider, je suis pas vraiment
sexologue. Je sais pas, il faudra qu'on fasse l'amour, Alexis, pour que... Si apparemment... Voilà, que tu me montres et...
Tu peux me décrire en détail.
Ça pourrait être le sujet d'une de tes prochaines pièces ou d'un prochain film. Non, mais c'est vrai. Est-ce que
parce l'orgasme
que
simultané.
T'es assez pudique dans tes pièces de théâtre et dans tes films sur autour de la question de la sexualité.
Ah, tu trouves ?
Ouais.
Ouais, mais c'est parce que en fait, je fais des pièces qui s'adressent un peu à tout le monde quand même.
Tout
donc,
public.
J'ai pas.
Très familial.
Tu vois, mais si demain j'aborde un truc là-dessus, je le ferai. Mais je suis pas pudique sur l'intime, c'est-à-dire pour moi. Il faut que ce soit justifié par l'histoire, c'est toujours au service de l'histoire, tu vois. Par exemple, dans une histoire d'amour, c'est quand même un sujet assez intime, et voilà, et tout le monde est un peu, elle se déshabille souvent, parce que c'est des scènes d'intimité, tu vois, c'est pas des scènes où, c'est pas juste la gratuité de la nudité ou quoi que, c'est plus un truc de, à un moment, elles sont toutes les deux, elles viennent de faire l'amour, donc forcément, elles sont dans cette intimité-là, tu vois. Mais
c'est très chouette d'ailleurs quand elles vont aux toilettes et qu'elles ont deux culottes et qu'elles baissent leur deuxième culotte. Enfin, c'est très beau ton regard, parce que c'est pas...
pas voyeur.
C'est pas du tout voyeur.
Non, c'est ça le but. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais tu vois, le choix des sous-vêtements, ça a été... On en a discuté longuement, tu vois.
Bien sûr.
Pour que ce soit à la fois juste et...
Et pas sexy,
voilà, et pas un truc un peu voyeuriste, machin.
Ouais, complètement.
Et la position et la lumière et tout ça, c'est un truc... Mais parce que c'est important. Moi, je supporte pas, tu vois, le côté un peu... En fait, je supporte pas quand un metteur en scène,
érotise de femmes qui seraient dans le même lit.
Pas tant l'érotisme, pourquoi pas si c'est dans l'histoire, mais qu'il abuse un peu de son privilège, de son pouvoir. Quoi. J'aime
clairement,
pas ça.
Clairement, t'es pas kéchiche, ça c'est
non,
clair.
Non, c'est pas mon truc, quoi. Ouais. Et c'est sûr que c'est pas mon truc, que ce soit dans la relation professionnelle ou quand on vient passer un casting, etc. Je supporte pas l'abus d'autorité. Et c'est hyper important pour moi. Ouais. Et d'ailleurs, tu le sais. Quand on s'est rencontrés sur Pim Poum, j'ai rencontré aussi une fille qui est venue, Florence Coste, qui est devenue ma copine. Et après, on est restés ensemble un an et demi. Et vraiment, elle me disait, pendant le tournage, je pensais que tu ne m'aimais pas. Parce que je mettais une vraie distance. Parce que, évidemment, elle me plaisait à l'époque. Et j'avais pas du tout envie que ça soit un truc qui dérange nos rapports, quoi, de boulot, en fait. Et c'est seulement après avoir fini le boulot qu'on s'est revus et qu'on avait qu'une histoire, quoi.
Ouais.
Donc, il y a quelque chose d'important de... Ouais, en tout cas, vis-à-vis de ça, c'est sûr.
Et moi, j'ai envie de te faire un compliment pour finir. C'est qu'aussi, dans cette pièce, j'ai trouvé ça très féministe et moderne, en fait. Une histoire d'amour, ça m'a beaucoup touchée. Déjà, le sujet aussi, les sujets que ça aborde et le fait que ça parle de la PMA, voilà, du chemin, de l'argent, en fait, tout simplement, des trucs techniques, mais combien ça coûte, l'investissement, l'argent que t'empruntes, et puis de trucs très ténus et hyper actuels de choix de femme, de est-ce que je me fais inséminer seule, est-ce qu'on se fait inséminer toutes les deux. Je me suis dit, j'ai besoin d'entendre plus ces histoires-là. Et donc, j'étais trop heureuse. Et puis, la scène où, avec la petite fille, où en fait l'oncle qui est un grand écrivain lui dit mais en fait je crois que t'écris encore mieux que moi. Le fait que ce soit un homme qui... à une petite fille, j'ai trouvé que c'était En fait, c'était pas du tout paternaliste. Pour moi, c'était ça aussi le féminisme. En fait, c'était.
C'est une pièce de femme. Hein.
Ouais, vraiment.
C'est une pièce de femme. Il y a, elles sont quatre sur scène. Moi, je suis tout seul. Et puis, à part moi, bah, en fait, toute l'équipe artistique, quasiment, c'est des femmes. Mm. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie de ça. Parce que tous mes spectacles, il y a plus de mecs que de femmes dans la distribution. Et c'est souvent le cas. Et ça faisait longtemps que je me disais, ah, j'aimerais bien avoir un sujet qui me permet d'avoir vraiment une majorité de femmes. Et bah, ça y est, c'était ça.
Mm. Et donc, c'est... tu te considères féministe?
Je pense. Enfin, en tout cas, si le féministe, c'est vouloir l'égalité sociale, culturelle, politique, etc. Oui, clairement, c'est un désir, une volonté, absolument. Après, je suis pas militant, mais je suis militant pour une cause vraiment. Donc,
Est-ce que tu espères quand tu auras des enfants qui seront encore plus intelligents et plus talentueux que toi?
Bien sûr. Et surtout, j'espère qu'ils seront heureux.
Mmh. Merci, Alexis.
Merci.
Alors, qu'avez-vous pensé de ce premier épisode de la saison 2? Il vous a plu? Alexis est très habitué aux interviews, hein. Là c'est un peu différent, le podcast c'est une discussion. Alors j'ai peut-être pas assez osé parler de moi ou donner mon avis, d'habitude je le fais plus, mais bon c'était une reprise. Et puis à un moment j'ai parlé d'un ex de l'architecte, vous savez l'architecte à la langue râpeuse, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Alors j'espère que j'ai pas dit son prénom et que j'aurais oublié de le biper, non... Voilà, j'aurais peut-être dû prévoir des questions sexuelles plus spécifiques pour Alexis à la fin, mais en même temps, ça, je crois que ça le gênait hein, de rentrer dans le détail de la jouissance synchronisée, qui est un truc hyper compliqué, hein. Bon, peut-être plus facile pour ceux en couple depuis longtemps, qui ont régulièrement l'occasion de s'entraîner, mais j'espère sincèrement que je vais trouver un copain hein, cette année, surtout pour les vacances en fait, pas être seule à ce moment-là. Enfin, franchement, moi, mon mois d'août, mes célibataires, a été un enfer de solitude, je vous le dis, vraiment. Après la rentrée, moi, j'ai beaucoup de boulot, donc j'oublie, en fait. Franchement, je fais des plateaux tous les soirs, pratiquement. Hein. Le mercredi, j'ai mon spectacle, je rentre tard, je suis explosée. J'oublie que je suis seule, je suis même pas seule, j'ai mon chat. Et puis, alors, j'ai rebaisé récemment avec un ex, hein, je vous dis tout, qui est en train de devenir un plan cul, maybe. Voilà, ça se passe bien au lit, mais je suis pas du tout amoureuse de lui et lui non plus. Et j'aimerais qu'un homme soit amoureux de moi, franchement, se réjouisse de mes succès et me soutienne dans les moments les plus difficiles. Après, je vous ai vous, hein, chers auditeurs, auprès de qui je peux me confier. Alors n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai en story. On pourra adresser différentes questions, revenir sur l'orgasme ou pas, ou l'écriture, l'ambition. L'idée est qu'on s'autorise vraiment de parler de tout sans tabou. Donc merci pour votre écoute, votre fidélité, votre bienveillance et votre humour. Je vous aime. Les mecs que je veux ken. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.